Bienvenue, 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 particulièrement à ceux qui nous rejoignent, qui n'ont pas eu l'occasion d'assister encore à la rencontre d'hier soir et à celle de ce matin. Donc nous sommes là depuis hier soir. Qui nous rejoint ce soir pour la première fois? Ok. Soyez les bienvenus. Donc, nous sommes pour un week-end de formation et d'enseignement, comme vous le savez, autour du thème du combat spirituel. Et jusqu'à présent, qu'est-ce que nous avons vu? Alors, quelques petits rappels de ce qu'on a pu voir jusqu'à présent. Hier soir, j'ai fait une partie introductive où je vous ai proposé une définition concernant le combat spirituel, à savoir l'opposition que le chrétien rencontre face aux puissances des ténèbres. Je vous ai expliqué aussi que le combat était un combat d'abord contre le péché, ensuite un combat aussi pour le renouvellement de notre intelligence et également un combat parfois face aux puissances des ténèbres quand nous avons affaire à des personnes qui sont chargées ou comme dirait un de mes amis, hein, lui il n'est pas seul quoi, il y a du monde chez lui et parfois ça se voit quoi, il y en a vous voyez, ils ne sont pas tout seuls quoi, il y en a beaucoup qui habitent la même maison quoi, donc c'est un petit peu embarrassant. Et nous avons vu aussi quels étaient les deux pièges qui nous guettaient, à savoir voir des esprits partout et surtout identifier les émotions avec des esprits. Bien entendu, c'est possible que les esprits utilisent nos émotions, mais c'est pas toujours et de loin pas le cas. Nous avons vu également que un des pièges qui nous guette, c'est le fait de ne pas avoir d'enseignement et la vision du monde que nous avons, parce qu'on est formaté au travers de l'école, au travers de l'enseignement que nous recevons, d'une certaine manière, et par conséquent, on n'a pas toujours conscience de cette réalité spirituelle, que ce soit au niveau démoniaque ou alors que ce soit au niveau du Seigneur et du secours qu'il nous accorde. Et ce matin, nous avons eu un long temps d'enseignement, je crois 2 heures, vous avez été remarquables. Ce soir, je serai peut-être, je pense, plus court. Enfin, je vais pas trop me prononcer, hein. Ma femme me dirait, mais ne dis pas des choses comme ça, quoi. Ne fais pas des promesses que tu ne peux pas tenir. Et ce matin, nous avons vu un petit peu, j'ai changé un petit peu ce que j'avais prévu par rapport au début, parce que j'ai vu que c'était, je pense que c'était important. Je vous ai parlé un petit peu ce matin des conséquences de l'occultisme, et puis surtout, j'ai donné pas mal d'éléments d'information sur comment faire pour accompagner une personne au niveau spirituel qui a pratiqué l'occultisme. Donc on a vu ensemble plein d'étapes très concrètes et pratiques, comment prier pour une personne, comment chasser un esprit, comment la libérer. On a vu aussi quelques petites clés entre problèmes psychologiques et problèmes spirituels, des petites choses pour nous aider. Et nous avons également parlé, je vous le rappelle pour ceux qui étaient présents, des problèmes d'oppression spirituelle chez les chrétiens. Si vous n'étiez pas là et que le sujet vous intéresse, sachez que en interne à l'église, ça a été enregistré et donc par conséquent, vous aurez la possibilité d'écouter ou de réécouter ces enseignements. Et puis, j'ai aussi des formations qui sont à votre disposition, je vous en parlerai tout à l'heure. Ce soir, je vous propose de terminer ce temps d'enseignement, enfin on le terminera demain matin, mais avec un sujet qui est connexe, mais qui fait en même temps partie de notre thème général. Ce soir, je vous propose de terminer avec 2 aspects concernant le combat spirituel. Dans un premier temps, nous allons voir ce que j'ai appelé quelques domaines où notre ennemi agit. Il y en a 4, enfin en réalité il y en a bien plus que cela, ne serait-ce que l'occultisme dont j'ai parlé un tout petit peu ce matin. Et puis ensuite on parlera de ce que j'ai appelé les clés de la victoire. Autrement dit, concrètement, quelles sont les clés que le Seigneur nous donne pour mener ce combat? Je ne serai pas exhaustif, je vous proposerai les principales clés ainsi que quelques témoignages également sur le sujet. Une petite parenthèse, pour ceux que ça intéresse, sachez que lundi après-midi, je suis invité dans le cadre d'un groupe avec des dames, mais j'ai compris qu'il y aura aussi des messieurs qui seront là, donc exceptionnellement ces dames l'ouvrent à d'autres personnes, et là je parlerai lundi après-midi des guérisseurs, des différentes catégories de guérisseurs, et je vous donnerai aussi quelques mots d'information concernant un peu les médecines alternatives et également la question de l'hypnose. Donc on ne verra pas la partie biblique a été vue davantage ce matin, là on verra vraiment ce qui se passe dans ce monde, comment est-ce qu'il fonctionne, et ça vous permettra de peut-être de découvrir ce monde-là. Je vous montrerai pas mal de vidéos et surtout, ça vous donnera des clés qui vont pouvoir vous aider aussi lorsque vous êtes confronté à ces personnes-là. Qu'est-ce qu'il faut leur dire, qu'est-ce qu'il ne faut pas leur dire, etc. Parce que des guérisseurs, vous en avez beaucoup. Hein. Ici, il y en a plein, enfin, il y en a partout en France. Hein. Voilà. Quels sont les différents domaines, donc, où notre ennemi agit ? Le premier domaine que nous voyons dans l'Écriture, c'est ce que j'ai appelé les éléments. Donc, quand je parle des éléments, je parle en réalité ici de la terre que Dieu a créée, l'eau, la terre, le feu, etc. Tout ça, ce sont des éléments sur lesquels notre ennemi a un pouvoir et peut intervenir. Comme texte de référence, je vous propose Marc au chapitre 4, les versets 35 à 41. Je vous raconte rapidement l'histoire. L'histoire est la suivante. Jésus est avec ses disciples sur une barque. C'est la nuit. Survient une tempête. Les disciples paniquent totalement. Ils sont désespérés. Ils réveillent leur maître qui est en train tranquillement de dormir sur le bateau. Et voilà, ils sont pris de panique. Et Jésus se lève. Il s'adresse aux éléments. Et il dit simplement « Tais-toi ». Et immédiatement, le texte de l'évangile nous dit que les éléments redeviennent calmes. Alors vous allez me dire, mais où est-ce qu'on voit une attaque spirituelle de l'ennemi ? J'en parle pas dans le livre parce que mon éditeur n'était pas 100% d'accord avec moi, donc j'en parle davantage dans les conférences, et comme c'était pas nécessaire, c'était pas grave. Mais moi je pense personnellement qu'on peut le voir à deux niveaux. Le premier niveau, c'est lorsque Jésus va se lever et qu'il va s'adresser aux éléments, il va dire, il va utiliser ce verbe « tais-toi ». Et littéralement, ce verbe grec est souvent, pas toujours, mais souvent utilisé dans le Nouveau Testament lorsque Jésus expulse des démons. Autrement dit, si Jésus avait voulu ce jour-là, comme le souligne un commentateur, utiliser un autre verbe qui signifie « tais-toi », il aurait pu le faire aussi. Mais c'est ce verbe précisément qu'il a utilisé ce jour-là en s'adressant aux éléments. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Christ, derrière ces éléments qui étaient déchaînés, en réalité a vu, a discerné une attaque spirituelle. Je précise au passage que ce n'est pas n'importe qui, c'est le Christ qui a discerné cela. Il a discerné derrière ce qui se passait en réalité une attaque spirituelle. La question qui se pose finalement et qui est secondaire, est-ce que le diable aurait créé ces circonstances, ou alors est-ce que c'est simplement un phénomène naturel, comme c'est souvent le cas, puisque le lac sur lequel il se trouvait se trouve 300 mètres en dessous du niveau de la mer, et puisque tout autour il y a des montagnes, et par conséquent, avec une telle configuration, il arrive ce qui arrive souvent, par exemple, dans les Antilles, c'est-à-dire des courants d'air chaud qui vont rencontrer des courants d'air froid, et par conséquent, ça va créer une sorte de tempête, une tempête tropicale, voire des tempêtes plus puissantes. Est-ce que c'est le diable qui a utilisé un élément naturel ce jour-là pour déstabiliser le Christ et en particulier ses disciples, ou alors est-ce que c'est lui qui l'a créé ? Finalement, peu importe. Ce qui compte dans l'histoire, c'est que, semble-t-il, le Christ aurait discerné derrière cela une attaque spirituelle. Et puis la deuxième chose qui me fait penser ça, c'est que les eaux, et en particulier dans l'Ancien Testament, et surtout dans les psaumes, sont souvent considérées pour les Juifs comme un lieu hostile. C'est là où, par exemple, dans le livre de Job, se trouve le Léviathan, autant de monstres marins qui, non seulement pour les païens de l'époque, mais également pour les Juifs qui leur ont repris cela, pour eux, ça leur faisait peur. C'était considéré comme un lieu qu'on maîtrisait pas, comme un lieu où il y avait des forces hostiles, et souvent, on les identifiait dans cet endroit-là. Donc, c'est ce qui me fait penser, ou c'est ce qui me fait dire, tout simplement, cela. Donc les eaux qui représenteraient les forces hostiles à Dieu, et puis le fait aussi que le Christ utilise un verbe particulier ce jour-là pour s'adresser aux éléments. Alors en disant cela, je dis quoi ? En disant cela, je dis tout simplement que, effectivement, le diable et ses démons aussi ont une capacité d'action non seulement sur les êtres humains, mais également d'une certaine manière sur l'ordre créationnel, dans la mesure, bien entendu, que Dieu va leur accorder. Le diable est toujours sous le contrôle de Dieu, et particulièrement de son Christ. Il ne peut agir que dans la mesure où Dieu le laisse faire et dans la sphère que Dieu lui a assignée, puisqu'il n'est pas tout puissant et puisqu'il ne peut vraisemblablement pas, comme Dieu, être présent partout en même temps à la fois. Hein ? Mais semble-t-il qu'il peut aussi utiliser les éléments. L'erreur serait de dire que derrière les catastrophes naturelles que notre monde connaît et connaîtra encore, en réalité se cachent des démons derrière, vous l'avez compris. Ce serait stupide de dire cela, de la même manière que certains qui, lorsqu'ils ont vu des tsunamis ou ils ont vu des tremblements de terre, du haut de leur tour d'ivoire, hein, certains pasteurs, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs, ont dit que voilà, ben, ce peuple était maintenant puni. Alors c'est facile de dire ça depuis son bureau, hein, surtout si vous avez tout ce qu'il faut et qu'il ne vous manque absolument rien, et de jeter l'anathème et de dire voilà, tel peuple a connu tel malheur, c'est parce que ce sont des grands pécheurs. Ou alors tout simplement parce que l'ennemi se déchaîne contre eux, parce qu'ils ont ouvert des portes. Dans ce cas-là, si c'était vrai, l'ennemi devrait se déchaîner et nous devrions tous connaître des malheurs, puisque des péchés, il y en a qui sont commis dans tous les pays. Il est probable, ou c'est possible, que l'ennemi utilise cela. Si maintenant tel était le cas et tel est le cas, encore une fois, il va falloir faire preuve de sagesse et de discernement. Et nous ne sommes pas obligés de le crier sur les toits, surtout si nous recevons la conviction de Dieu. Quand Dieu nous parle, il nous montre quelque chose, c'est pour que nous prions de manière spécifique. Alors si je vous montre de cette photo de l'évangéliste Reinhard Bonnke, c'est parce que celui-ci, dans sa biographie, raconte un événement qui s'est produit et qui fait penser exactement à ce que je suis en train de dire cela. Il raconte un jour, alors qu'il avait encore, avant qu'il ne fasse ses grandes rencontres en plein air, où il draine des centaines de milliers de personnes, il faisait encore ses rencontres sous tente. Et il avait à l'époque la plus grande tente du monde, d'ailleurs qui avait été homologuée par le livre des records, qui pouvait contenir, je crois, 36 000 places. Et un jour, alors qu'il était en train de planter cette tente, je ne sais plus dans quel pays d'Afrique, et qu'il était l'après-midi, il était en train de se préparer dans sa caravane, voilà qu'il sort pour avoir un temps de prière avec son équipe, et pendant ce temps de prière, tout d'un coup, il voit au loin des nuages qui s'amoncellent et qui laissaient présager une tempête. Et il savait que si cette tempête venait et s'abattait sur la tente, celle-ci risquait d'être déchirée, et puis même peut-être les poteaux, même s'ils sont plantés profondément dans le sol, de tomber sur l'assistance. Et par conséquent, ça risquait d'avoir un préjudice pour la foule qui devait venir. Et ce jour-là, en priant, l'équipe et lui-même ont eu la conviction qu'en réalité, derrière cela, il y avait le malin qui se cachait. Et donc ils sont sortis, ils ont prié, et ils ont demandé à ces nuages, et ils leur ont dit de partir au nom du Christ, et effectivement, ce jour-là, Dieu les a épargnés. Maintenant, il précise aussi, pour ceux qui suivent un peu son ministère, que par la suite, ils ont eu bien des campagnes, et ils ont pris des douches, hein, ils ont annoncé l'évangile sous des trompes d'eau, et Dieu n'est pas intervenu, parce que, voilà, Dieu, c'est pas Harry Potter, il n'intervient pas toujours comme on le souhaiterait, il sort pas avec sa baguette magique, etc., mais ce jour-là, en tout cas pour ce qu'ils ont vécu à cette époque-là, il y avait l'ennemi qui était derrière. Deuxième domaine sur lequel l'ennemi peut agir, par conséquent, comme je le disais, je le redis, prudence et discernement s'imposent. Deuxièmement, nous voyons aussi à travers l'Écriture que l'ennemi peut agir sur les êtres humains. Je dirais même que nous, en tant qu'êtres humains, nous sommes en réalité la matière première avec laquelle travaille l'ennemi, et en particulier ceux qui ne sont pas au Christ, c'est évident, puisqu'ils sont dans sa main. Mais même en tant qu'enfants de Dieu, nous pouvons aussi être déstabilisés par l'ennemi, ou il peut même nous utiliser parfois parce que nous allons ouvrir des portes. Trois exemples très rapidement. Le premier exemple qui va dans ce sens-là, c'est celui que nous voyons dans Acte 5, l'histoire d'Ananias et Saphira. Je vous rappelle simplement qu'ils étaient convertis, ils étaient baptisés, ils avaient vécu peut-être même la Pentecôte, hein, ils avaient vécu l'effusion de l'Esprit, des personnes qui faisaient partie de la jeune Église, qui servaient, et à un moment donné, vous connaissez l'histoire, il y a Saphira et Ananias qui vont mourir, tout simplement parce que dans ce temps de réveil, ils vont mentir au Saint-Esprit. Et Pierre leur dira, mais comment est-ce que Satan a-t-il pu venir, ou comment est-ce que vous avez pu laisser cette place à Satan pour venir en vous? Parce qu'ils avaient menti. Ils ont menti au Saint-Esprit, et par conséquent, en mentant, ils ont ouvert la porte à l'ennemi. Et puisqu'ils étaient dans une période de réveil où l'Esprit de Dieu agissait de manière très forte, il y a des choses qui n'étaient pas tolérées, et ils ont tous deux perdu la vie. Autre chose, avant la Pentecôte, Alors, bien sûr, on est dans une période un peu particulière de l'histoire du salut, puisqu'on est entre la période de l'Ancien Testament et la Pentecôte n'est pas encore là. Donc c'est une période un peu particulière, intermédiaire, où Jésus est là. Mais à ce moment-là, il y a Pierre qui va, à un moment donné, avec son équipe, avec les disciples, et Jésus va leur poser la question, « Qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre répondra, « Tu es le Christ. » Le Messie, le Fils de Dieu. Pour nous, ça nous paraît être une évidence. Maintenant, remettons-nous quelques instants dans le contexte de l'époque. Les disciples de Jésus sont en train de découvrir qui est Jésus. Pour l'instant, Jésus, c'est juste un thaumaturge, c'est-à-dire un faiseur de miracles. Jésus, c'est un prophète. Jésus, c'est quelqu'un d'atypique. Et ils sont en train de découvrir qui il est réellement. Mais c'est quelque chose qui est difficile pour eux d'expliquer. Et à ce moment-là, lorsque Pierre dit « Tu es le Christ, le Messie, c'est quoi ? Le Messie, c'est dans l'Ancien Testament, c'est loin. Loin, c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu, qui a été choisi par Dieu. Et donc, lorsqu'il dit le Messie pour un juif, loin, c'est-à-dire c'est celui qui a reçu l'onction de Dieu. C'est le sauveur qui doit venir. Et pour un juif dire cela, parce qu'on rappellera quand même que les disciples sont juifs, hein, pour un juif dire cela, c'était impossible. Et Pierre et Jésus s'y trompera pas, puisqu'il lui dira, mon cher, c'est pas sorti de ton intelligence, ça. Ça, c'est l'Esprit de Dieu qui te l'a révélé. Et puis, quelques instants après, Jésus raconte un petit peu ce qui va se passer, et le même Pierre dit, « Hey, rien du tout, quoi. La croix, tout ça, là, nous, on va te protéger, hein. On a les glaives, on a tout ce qu'il faut. » Et Jésus lui dira, « Arrière de moi, Satan. » Le même Pierre. C'est fort, au chef de l'Église, à celui avec qui il va commencer l'Église, parce que ça commence avec Pierre. C'est à lui qui va remettre les clés. C'est à lui qu'il dira, paie mon troupeau, prends soin de mes brebis. Et donc, celui qui va faire une belle confession de foi, quelque temps après, dira un truc complètement fou. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'à ce moment-là, Pierre était possédé? Absolument pas. À ce moment-là, Pierre était simplement sous mauvaise influence. Il s'est laissé influencer par son âme. Il s'est laissé influencer, non pas par son esprit, mais il s'est laissé influencer par ses propres sentiments et son propre désir. Comme quoi, nos propres désirs, Dieu peut s'en servir, mais pas toujours. Et parfois, nos propres désirs ou ce que nous voulons ou ce que nous souhaitons dans notre cœur, dans notre âme, n'est pas forcément toujours conforme à la volonté de Dieu. Alors, il ne faut pas que nous vivions en conflit avec nous-mêmes permanent, ce serait dommage. Souvent, Dieu utilise, d'ailleurs même très souvent, ce que nous sommes, les dons, les talents qui sont en nous. Mais parfois, ils peuvent mal nous aiguiller. Je vous raconte un petit exemple que je relate dans mon livre. C'était en 2011, j'étais au Burkina Faso, où je suis souvent allé, et nous étions là-bas pour un forum pour des évangélistes, c'est-à-dire pour encourager, équiper des évangélistes locaux. Et après ça, je devais partir, je ne sais plus dans quelle ville, pour une évangélisation. Et j'étais accompagné de mon collègue Daniel Nassa, qui est burkinabé, qui avait organisé tout ça, et j'étais accompagné d'un mon collègue évangéliste belge Frédéric, et puis encore d'un jeune évangéliste Paul, qui nous accompagnait aussi pour la circonstance. Donc nous étions quatre. Et nous étions au mois de juin, au Burkina, c'est 42, 43, 44, enfin bon, bref, il fait chaud, ça plombe, quoi, c'est dur. Et lorsqu'on arrive dans la ville, je me tourne vers Daniel, et je lui dis, Daniel, où est-ce que tu as prévu de nous loger? Parce qu'il s'occupe toujours bien de nous. Et je lui dis, j'ai prévu de vous loger dans un centre qui a été fondé par des Burkinabés, un centre médical où ils s'occupent d'enfants qui sont victimes de la maladie du Noma. Et c'est un couple extraordinaire qui aide aussi la population au niveau médical. Ils ont de superbes infrastructures et ils ont quelques chambres d'hôtes. Alors je lui dis, mais c'est bien, mais est-ce qu'ils ont une piscine? Et Harry me dit, ah non, il n'y a pas de piscine, quoi. Et je dis aux gars, ça vous dirait, les gars, qu'on aille un petit peu se rafraîchir? Alors, bien sûr, tout le monde dit oui, hein. Alors, j'ai dit, Daniel, est-ce que c'est possible qu'on regarde ailleurs? Et puis, Daniel, il est cool. Il me dit, ouais, pas de souci, on peut voir ailleurs. Et on arrive au début de la ville, un bel hôtel, et on s'arrête là. Et bon, je sors avec Daniel et je demande à Frédéric de m'accompagner. Et alors qu'on est dans l'hôtel, moi je vois la belle et grande piscine dehors, on regarde la carte des menus, on regarde les prix, etc. On se dit, bon, l'endroit a l'air pas trop mal. Et alors qu'on est en train de discuter avec le responsable, qu'on est en train de regarder qu'est-ce qu'on fait, tout d'un coup, Frédéric me dit, écoute Manu, est-ce que je peux te parler? Et donc, il me parle en aparté et il me dit, écoute, moi, cet endroit, je ne le sens absolument pas. Et je connais bien Frédéric, non seulement il est évangéliste, mais il est aussi prophète, il prophétise pas mal. D'ailleurs, des fois, quand on est en réunion, moi, je prêche, lui, il prophétise, voilà. Et je fais confiance à son discernement spirituel. Et il me dit, écoute, moi, je le sens pas. Il me dit, cet endroit, il est plombé au niveau spirituel. Là, le gars, il est pas clair, le patron. Si on va là-bas, me dit-il, on va ramer. Alors, je lui dis, bon, ok, je laisse tomber mon idée. On va là où Daniel avait prévu, on laisse tomber toutes ces idées que j'avais. Et finalement, Dieu merci, on a bien fait d'aller là où nous devions aller. Parce que si on était resté là, on aurait galéré au niveau spirituel parce que l'endroit était plombé. Et même si on est chrétien, parfois quand vous avez des gens comme ça qui sont chargés, eh bien vous le ressentez chez vous, hein, à la maison, vous le ressentez dans les locaux, ça plombe toute l'ambiance spirituelle, vous n'arrivez pas à prier comme il faut, vous êtes dérangé, il y a des coups et des machins et tout ce que vous voulez. Et en allant dans cet autre endroit, on a pu faire connaissance avec ce couple burkinabé. La femme était une ancienne musulmane, elle nous a raconté son témoignage. Un jour qu'elle était en train de nous faire visiter le centre, ça a peut-être pris une heure. À un moment donné, on s'est assis dans une pièce, il faisait au moins 35 degrés là-dedans, et on s'est assis et elle nous raconte son témoignage, un petit bout de femme. On est resté là-dedans, il était, je ne sais plus moi, 10h ou 10h30, on était sortis, il était 14h. Elle nous avait parlé pendant 3h ou 3h30, je ne sais plus. Et moi, je croyais qu'elle nous avait parlé avec Frédéric peut-être 3/4 d'heure, 1 heure, quoi. Elle nous avait raconté toutes les choses que le Seigneur avait faites. Comment ils avaient pu avoir ce local, comment avec chacun de leurs enfants, ils avaient vécu des miracles. Un de leurs enfants, une petite fille qui avait été brûlée parce que la bonne qui s'occupait d'elle n'a pas fait attention à laisser une casserole avec de l'eau chaude. La gamine qui avait 9 ou 10 mois, qui marchait à peine, je crois, a fait tomber la casserole, et la gamine a été ébouillantée depuis là jusqu'en bas, sauf la tête. Ébouillantés, à tel point qu'ils n'arrivaient même pas à enlever la grenouillère. Et quand ils ont enlevé la grenouillère, la peau est partie avec. Ils étaient désespérés. Ils ont juste mis de la tulle entre les mains, entre les doigts, pour qu'elle ne colle pas. La gamine, elle pleurait même pas, tellement c'était douloureux. Et ils ne savaient pas quoi faire. Et ils ont lancé une chaîne de prières autour de la salle où cette gamine se trouvait, où ils essayaient de faire ce qu'ils pouvaient avec elle. Et il y a des frères et des sœurs qui ont prié là, tout autour, pendant des heures et des heures et des heures. Et cette gamine, moi je l'ai vue, cette gamine, elle est presque aussi grande que moi maintenant. Et la peau a repoussé sur toute la surface de son corps, sans qu'il n'y ait aucune opération. Alors bien sûr, à plein d'endroits de son corps, elle n'a plus du tout les mêmes sensations, mais Dieu est intervenu. Enfin, avec chacun de ses enfants, ils ont vécu des trucs de fou, quoi. Et cette femme, elle nous racontait ses histoires. Avec mon collègue Frédéric, on était là, on avait les larmes aux yeux. On avait envie de tomber à genoux et d'adorer le Seigneur pour tellement qu'il est grand et fantastique et qu'il fait des choses pour ses enfants. Et je me suis dit, si on était allé à l'hôtel, là, hein, on aurait galéré. Bon, on aurait peut-être eu la tête dans l'eau, mais on n'aurait pas vécu ces choses-là au niveau spirituel. Et nous, ça nous a ressourcés dans notre foi. Ça nous a fait tellement de bien de pouvoir rencontrer cette personne-là et de voir ce que le Seigneur... Donc, ce que je veux dire au travers de cela, c'est que parfois, l'adversaire peut se servir de nos sentiments ou de certains désirs que nous avons pour nous faire passer à côté de certaines choses. Et je me demande dans quelle mesure, parfois, bien dans nos conseils d'église, sauf ici bien sûr, mais dans certaines églises, parfois nous prenons ou nous pouvons être amenés à prendre des décisions aussi dans notre propre vie, être amenés à prendre des décisions dans nos églises où nous allons davantage considérer les choses juste d'un point de vue humain. Je ne dis pas qu'il ne faut pas considérer les choses d'un point de vue humain. Le Seigneur a dit aussi, quand tu veux construire une tour, tu t'assois, tu réfléchis, tu regardes dans ton porte-monnaie et puis tu regardes ce qui est possible de faire. Donc, il faut aussi le faire. Mais il y a des moments aussi, Dieu nous demande de faire preuve de foi. Et parfois, on regarde davantage notre compte en banque, on regarde davantage certaines considérations très, très pratiques, au lieu de faire preuve de foi, au lieu d'aller dans une autre direction. Et Dieu nous laisse la latitude aussi de pouvoir diriger notre vie comme nous le souhaitons. Mais ce faisant, nous pouvons, moi je le crois, passer à côté de certaines bénédictions, de certaines choses que Dieu veut nous permettre de vivre. Je ne dis pas ça pour vous déstabiliser, ni pour me déstabiliser moi-même et pour me dire « Ah ben voilà, qu'est-ce que tu aurais loupé ?» Ce n'est pas dans cette dynamique qu'il faut être, mais simplement plutôt dans la dynamique de se dire « Voilà, Dieu hein, si je fais fausse route, conduis-moi, de nous rendre sensibles toujours pour que, si nous voyons que nous faisons fausse route, quelles que soient les raisons pour cela, nous soyons assez sensés et sensibles aussi à l'Esprit de Dieu pour faire demi-tour et aller là où il veut que nous allions. Et nous nous rappellerons ceci, et ça c'est très encourageant, à savoir que Satan n'a d'emprise sur nous que celle que nous allons lui concéder. Ça veut dire que si nous-mêmes nous ne concédons aucune emprise au diable, il n'a pas d'emprise sur nous. C'est très important, sauf bien sûr si nous sommes possédés, mais ça c'est un autre cas de figure. Mais si nous-mêmes nous avons fermé les portes et nous ne lui concédons rien, celui-ci n'aura pas d'emprise ou très très peu d'emprise sur nous. Et ça c'est Dieu merci. Troisième domaine où l'ennemi peut également agir, il y a les éléments, il y a les hommes et il y a le troisième domaine. Le troisième domaine, c'est les structures religieuses ou alors étatiques. J'en ai parlé courtement hier soir, je crois. De quoi s'agit-il ? Dans Éphésiens 6, verset 12, si mes souvenirs sont bons, il est question des autorités, des puissances. Paul dira, vous n'avez pas à lutter contre les autorités, les puissances, les dominations, etc. Je vous ai expliqué hier soir que ces autorités, ce n'étaient pas des autorités civiles ou religieuses, mais que c'était des autorités spirituelles. C'est ainsi qu'il faut comprendre apparemment le passage. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire tout simplement que... il est très important dans un premier temps déjà de ne pas diaboliser tout ce qui est structure religieuse ou étatique. Je dis ça, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, dans le milieu chrétien, vous avez parfois des enseignements, surtout dans certaines sphères, qui courent, qui vont diaboliser. On va diaboliser le catholicisme, on va diaboliser le mouvement évangélique, des mouvements évangéliques trop traditionnels, on va diaboliser l'État, on va diaboliser ceci, on va diaboliser cela. C'est un discours que nous ne retrouvons jamais dans l'Écriture. Jamais Paul... où les disciples ne diabolisent les autorités. Jésus lui-même n'a pas diabolisé les autorités, il a dit « rendez à César ce qui est à César » et « rendez à Dieu ce qui est à Dieu ». Donc nous n'avons pas à diaboliser les structures religieuses ou étatiques. Par contre, ce qui est juste, c'est que les dominations, les puissances, les démons, autrement dit, peuvent se servir des structures établies pour noyauter la chose, pour perturber le fonctionnement d'un pays, d'une région ou d'une église ou n'importe quoi. Donc ils peuvent utiliser une fois encore des êtres humains qui ne sont pas soumis au Christ ou qui sont mal soumis au Christ pour accomplir leurs sombres desseins. Et donc quand on comprend les choses de cette manière-là, du coup ça nous éclaire aussi, ça nous permet de réaliser, de comprendre aussi mieux ce passage de 1 Timothée 1, versets 1 à 4, où l'apôtre Paul dit que « je veux que les hommes prient en tout lieu, d'abord en élevant des mains pures, et ensuite il dit « en priant pour tous ceux, je paraphrase, qui nous gouvernent, pour les rois, pour tous ceux qui sont là ». Et il dit que la première chose à faire, que nous devons faire en réalité, c'est de prier. Et à plusieurs fois dans le texte, il le dit, surtout pour eux, et il dit « pour que nous soyons en paix, pour que nous puissions continuer de bénéficier, de jouir de cette liberté que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, et aussi qu'il puisse y avoir la paix tout simplement ». Donc ça veut dire que, voilà, c'est très important. Et s'il insiste là-dessus, c'est justement aussi parce qu'il y a un enjeu spirituel. Et il sait très bien que lorsqu'il n'y a pas cette liberté, c'est beaucoup plus compliqué non seulement pour les chrétiens, mais d'un point de vue spirituel, il y a aussi autre chose qui va se dérouler et se passer derrière. Et le quatrième domaine, et je termine avec cela, ce sont des lieux-dits, des villages, des villes, etc. Hier soir, j'ai parlé des esprits territoriaux et j'ai insisté sur le fait qu'il fallait pas trop s'attarder dessus et en voir partout. Maintenant, on constate quand même que dans notre pays, d'ailleurs du reste dans tous les pays, il y a des endroits qui parfois sont plus difficiles au niveau de l'Évangile. Et quand vous annoncez l'Évangile, vous sentez physiquement, vous percevez une opposition. Et ça, c'est vrai même dans des endroits qui parfois, ou dans un département où l'évangile a été bien répandu. Je prends le cas en Alsace, il y a une certaine ville en Alsace où, je crois, 3 ou 4 unions d'églises ont essayé à plusieurs reprises d'implanter une église. Et chaque fois, ça s'est soldé par des échecs. Plusieurs n'ont pas réussi à implanter, d'autres ont commencé à implanter, et à peine il y avait 20 personnes qui faisaient partie de l'église, ils ont connu une division. Et quand on regarde bien le contexte, c'est un contexte extrêmement nanti, un contexte franc-maçon, un contexte où le Dieu qui est présent, c'est Mammon et tous les autres, quoi. Et donc c'est un endroit hyper difficile. Et ça fait que les chrétiens ont vraiment pris du temps, se sont unis pour prier, et aujourd'hui ils ont réussi à faire une église là-bas, et encore, c'est une église qui a du mal à décoller. Alors que vous changez d'endroit et vous allez voir que c'est beaucoup plus facile. Moi, je connais un endroit en Alsace, près de Sarre-Union, où il y a un pasteur réformé qui est très évangélique, qui m'a déjà invité à plusieurs reprises. Chez lui, dans son village et dans son église, l'église est pleine le dimanche matin. Vous avez environ 200 personnes qui vont là-bas. Vous avez plein de jeunes couples avec des enfants dans une église protestante réformée, traditionnelle. Les gens, ils se convertissent là-bas. Les gens, ils connaissent le Seigneur. C'est une église qui est géniale, super ouverte. Et dans un village dont il est aussi le pasteur à côté, qu'il a aussi en charge, à quelques kilomètres, il y a une église là-bas, mais la communauté sur place ne décolle pas. Spirituellement, ça décolle pas. C'est complètement coincé. Et moi, il m'a déjà invité pour faire des évangélisations là-bas et d'autres évangélistes. Et chaque fois qu'on est là-bas, c'est la galère. Hein, on n'avance pas au niveau spirituel. C'est vraiment plombé. C'est vraiment pas évident. Ah ben, dans ce village, vous avez des voyants, vous avez des guérisseurs. Dans ce village, vous avez plein de gens qui trafiquent au niveau occulte. Et ça a du mal à décoller. Le village ne décolle pas. Alors que le village à quelques kilomètres décolle. Donc au travers de ça, je dis quoi ? Au travers de ça, je dis qu'il faut être sensible, sensible tout simplement. Et effectivement, dans certains endroits, parfois, ça peut être plus difficile. Et du coup, connaître un petit peu l'histoire peut nous aider. Ça peut nous renseigner, nous permettre de comprendre ce qui se passe. Après, il faut faire quelque chose avec ça. Il ne faut pas simplement rester sur un constat. Il va falloir prendre le temps de prier, de discerner aussi la pensée de Dieu, de savoir s'il faut y aller maintenant ou s'il faut y aller plus tard, etc. Idem aussi dans des endroits où il y a eu des massacres, des endroits où il y a eu des choses terribles qui se sont passées d'un point de vue moral. Ce sont parfois aussi des lieux qui sont plombés, comme certaines maisons peuvent être aussi plombées. Je ne sais pas combien de fois j'ai des gens qui m'ont téléphoné, même des chrétiens, qui me disent « Écoutez, il y a des drôles dans la maison que j'ai achetée, ou c'est la maison de ceci ou de cela, il y a des manifestations bizarres, quoi ». Alors, moi, j'ai tendance à essayer de remettre les choses pied à terre d'abord, voir si les gens ils sont pas en train de fabuler. Mais bon, quand vous allez dans les endroits, que les gens vous racontent ce qui se passe, eh ben voilà, c'est des endroits qui sont plombés. Donc, moi, je leur dis aux gens, je leur dis, mais écoutez, vous devez prendre autorité. C'est chez vous, à la maison, ici. Et donc, la première chose à faire quand on rentre dans une maison, qu'on achète ou qu'on loue ou n'importe quoi, c'est de prier pour l'endroit. Nous, quand on est rentré en Alsace, on a changé donc de lieu d'habitation. La première chose qu'on a faite avec mon épouse, c'est de prier pour l'endroit. Moi, je suis passé dans toutes les pièces de la maison et j'ai prié sur cet endroit. On ne sait jamais ce qui s'est passé auparavant. Hein. Cet endroit, ben voilà, il y a d'autres noms qui ont été invoqués, d'autres choses qui ont été faites. Maintenant, c'est le nom du Seigneur que nous invoquons dans cet endroit. Ça veut dire que l'adversaire, il n'a pas le droit de venir ici. Il n'y a rien à faire ici. Il part. À côté de cela, vous avez encore, bien entendu, plein d'autres portes d'entrée que l'adversaire va pouvoir utiliser. Finalement, on se rend compte que c'est beaucoup plus vaste que ce que je suis en train de dire et beaucoup plus vaste que la question de l'occultisme. Si vous lisez 1 Timothée 4.1, vous allez voir qu'il est question des pensées, des idées. Il est même question de la théologie. Autrement dit, on est en pleine église, là. Paul dit qu'il parle de doctrine de démons. C'est fou, ça. Ça veut dire que dans l'Église primitive, qui était en train de grandir, de naître, il y avait déjà à ce moment-là des doctrines de démons. Et ces doctrines de démons, c'était quoi ? Ces doctrines de démons, c'était entre autres le légalisme. Toutes les formes de légalisme, que c'était les légalismes que certains juifs proposaient, c'était, pour d'autres c'était l'abstinence, hein, l'abstinence sexuelle, l'abstinence de certains aliments, l'abstinence de ceci, l'abstinence de cela. Et Paul discerne derrière tous ces légalismes ou ces pseudo-évangiles qui étaient proposés, il dit que derrière cela, en réalité, ce sont des doctrines de démons qui sont là. Certaines touchaient la divinité du Christ, effectivement, et c'était des doctrines de démons bien identifiées, et d'autres savaient à trait ou à faire à des questions de légalisme et autres. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il y avait des démons qui étaient là, mais ça veut dire que l'influence de ces pseudo-théologiens ou de ces pseudo-enseignants qui venaient, parce que dans l'Église primitive, il y avait beaucoup d'enseignants itinérants, c'était comme ça qu'ils fonctionnaient beaucoup à l'époque, puisqu'ils n'avaient pas forcément des pasteurs, ou ils nommaient plutôt des anciens, donc il y en avait beaucoup qui venaient pour passer pour enseigner les églises, et il y en avait là-dedans à boire et à manger. Et il y en a qui n'apportaient pas des bonnes choses, ils n'étaient pas bien inspirés. On se rend compte, finalement, qu'aucune sphère de notre société est indemne. Et nous ne devons surtout pas être dupes là-dessus. Tout est infiltré, tout, partout, à tous les niveaux. Je ne dis pas ça pour qu'on commence à craindre ou à avoir peur. On n'a pas besoin d'avoir peur, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Donc on a, en réalité, absolument rien à craindre. Mais on ne doit pas être dupe et se laisser duper. Et parfois, les chrétiens se laissent duper et pensent que derrière ceci ou derrière cela... Je pense à une étudiante que j'ai eue à Nogent-sur-Marne, où je donne un cours sur l'évangélisation, qui était pendant un certain temps dans le développement personnel. Mais elle était tellement dans le développement personnel qu'elle s'est rendue compte que ce développement personnel, c'était devenu une sorte de religion et de succès d'année de la foi, une béquille de la foi. Ça ressemblait à la foi, c'était comme la foi, mais en réalité, ce n'était pas la foi. Et moi qui ai eu l'occasion d'étudier un petit peu le développement personnel, il y a des choses qui sont intéressantes, mais très vite on peut basculer dans autre chose. Et derrière cela, eh bien, c'est pas le Seigneur, et même parfois les gens qui sont là-dedans vont vous parler de Dieu, mais on ne parle absolument pas du même Dieu. On ne parle pas du Christ, on ne parle pas de soumettre notre vie à un autre. C'est nous qui sommes le maître dans toute cette histoire, et c'est nous qui, par notre propre volonté, avons la capacité de changer. Alors c'est vrai dans une certaine mesure, mais il faut savoir jusqu'où on va aller. Et donc finalement, on se rend compte que ça touche et ça influence tellement de domaines, quoi. Alors il y a des choses qu'il faut prendre, il y a beaucoup de choses qu'on peut prendre, et puis il y en a d'autres aussi, il va falloir faire le tri et les laisser de côté. Si le sujet vous intéresse, je vous renvoie à ce vieil ouvrage que vous avez peut-être dans votre bibliothèque, peut-être plus pour les anciens parmi nous. C'est peut-être l'occasion de le prêter aux jeunes. Hein. Voilà, lecture pour cette semaine, les jeunes, si vous voulez avoir votre examen, hein, de C.S. Lewis, Tactique du diable. Et diable, il n'y a pas de S. Il y en a déjà un, ça suffit. Hein. Plusieurs, là, on ne va pas s'en sortir, on est mal barré. Ça va, vous êtes toujours avec moi? Oui? Allez. Ah, c'est sympa, ça tourne même, là. Deuxième point, et je terminerai avec celui-ci. Les clés de la victoire. Nous sommes dans un combat spirituel, c'est ce que Paul nous rappelle dans 2 Corinthiens 10, versets 3 et 4. Il nous dit quoi ? 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 et 4. Il nous dit ceci, si en effet nous vivons dans la réalité humaine, ou alors dans la chair, une traduction plus littérale, nous ne combattons pas de façon purement humaine, en effet les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais elles sont puissantes, et grâce à Dieu nous pouvons renverser des forteresses. Et là, il souligne dans le contexte qu'il renverse les raisonnements, tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Donc les armes que Dieu nous donne, ce sont des armes en réalité spirituelles. Et comme je le disais hier, je crois, ou ce matin, ces armes, c'est à nous de les utiliser. Et avant de les utiliser, il faut déjà les connaître. Parce que si on ne les connaît pas, on risque de se retrouver comme ce boxeur-là, vous me direz avec Mohamed Ali, hein, et il y avait plus de chances de se retrouver couché que debout. Un des plus grands boxeurs de tous les temps, donc à terre. Donc si on veut se retrouver debout, mieux vaut utiliser les armes que le Seigneur nous donne. Alors quelles sont ces armes ? Il y en a une que j'ai simplement évoquée ce matin, mais que je n'ai pas développée, que je développerai un petit peu maintenant, c'est l'autorité. Moi, il y a une chose qui m'a beaucoup aidé dans ma vie personnelle pour prier pour les gens et pour chasser des démons et pour libérer les gens et qui m'a donné plus d'audace, c'est de réaliser, et je remercie mes frères pentecôtistes et en particulier charismatiques, c'est eux qui m'ont beaucoup aidé sur le sujet, je suis tombé sur des gens qui étaient sérieux, c'est de réaliser que, eh bien, j'avais une autorité. En tant qu'enfant de Dieu, j'ai une autorité. Et j'ai autorité sur les démons. Alors, on voit cela, par exemple, dans Luc 10, verset 18. Luc 10, verset 18, Jésus envoie ses disciples en mission et il leur donne l'autorité. Et ceux-ci, lorsqu'ils reviennent, sont tout contents de voir l'œuvre qu'ils sont capables, ou plutôt qu'ils ont accomplie au nom du Christ. Jésus leur dit, eh bien voilà, je regardais Satan tomber du ciel comme un éclair, et je vous ai donné pouvoir de marcher sur les serpents, etc. Et verset 17 plutôt, c'est Luc 10, verset 17, je suis trompé. Les 70 revinrent tout joyeux et dirent, Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. Donc, ils sont, quelque part, ils sont scotchés, stupéfaits, qu'en utilisant le nom de leur maître, Jésus, les démons sortent. Dans le contexte de l'époque, c'est pas n'importe quoi. Parce que dans le contexte de l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'exorcismes. Les Juifs connaissaient les exorcismes. Exorcisme, ça veut dire expulsion de démons. Et c'est des choses qu'ils connaissaient. Mais c'était absolument pas quelque chose de courant. Or, Jésus, quand il vient sur terre, et les Juifs s'y sont pas trompés, ses contemporains s'y sont pas trompés, ils sont très surpris de voir tellement de démons qui sortent des personnes. Et de voir du reste qu'il y a plein de gens qui sont squattés par des démons, y compris des bons juifs qui vont tous les Shabbats à la synagogue. Et en donnant son autorité à ses disciples, ceux-ci ont les mêmes résultats que le maître. Marc 16, verset 17-18 nous dit, c'est la finale de Marc, où il nous est dit ceci, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru ». Et le premier signe qui est mentionné, c'est pas le parler en langue, c'est pas l'imposition des mains pour les malades, c'est pas le fait de boire des breuvages mortels qui ne nous feront rien, c'est voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, en mon nom, ils chasseront des démons. Premier signe mentionné. De tout temps dans l'histoire du christianisme, et surtout dans le christianisme ancien, c'est-à-dire 1er, 2e, 3e et 4e siècle, les chrétiens étaient réputés comme des chasseurs de démons. Et vous avez même des textes de l'époque, qui ne sont pas des textes bibliques, mais de la littérature extra-biblique, qui relatent et qui dit par exemple, il suffit que vous rencontriez quelqu'un de fou, qui a des esprits, des démons en lui, prenez cette personne-là, amenez-la à n'importe quel chrétien, et au nom de son Dieu, à savoir le Christ, il chassera cette personne et celle-ci reviendra dans son bon sens. Quand je vais au Burkina Faso, parfois vous rencontrez des fous que vous voyez tout nus en train de se promener sur le bord de la route. Alors certains sont malades, mais d'autres sont possédés. Et tout le monde sait là-bas que s'ils veulent aider ces personnes-là quand ils voient qu'ils ont des démons, ils vont les prendre et ils les emmènent dans des églises. Et ils savent que quand ils vont rentrer dans l'église, les pasteurs ou les chrétiens qui sont là vont s'occuper et que la personne, quand elle ressortira dans son bon sens. Et ils savent que c'est à cet endroit-là qu'il faut aller pour que les personnes soient soulagées et aidées. Alors, deux choses par rapport à Marc 16. La première chose que je vous fais remarquer, c'est que même si la finale de Marc n'est pas authentique et ne se trouve pas dans les meilleurs manuscrits, néanmoins elle est quand même présente dans pas mal de manuscrits, eh bien cette finale nous montre quoi ? Même si elle a été écrite plus tard, c'est-à-dire elle date certainement de la fin du 1er siècle, c'est-à-dire de l'an 90, 100, certains vont même la mettre plus tard, ça nous montre que, en réalité, l'expulsion des démons et les signes et les miracles ont continué après la mort des apôtres. Et que les disciples des disciples ont continué de voir des manifestations de ce genre-là. Donc ça ne fait que confirmer que c'était quelque chose qui était connu et répandu à l'époque. Et puis deuxième chose, Marc 16 est un passage qui s'adresse non pas à des spécialistes, non pas à des personnes qui ont fait 3 ans ou 5 ans de théologie, non pas à des hommes ou des femmes qui ont été appelés précisément par Dieu pour un ministère particulier, mais il nous est dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Autrement dit, et je reviendrai là-dessus dans quelques instants, tout le monde peut prier pour quelqu'un qui a des problèmes au niveau spirituel. Tout le monde peut prier pour chasser un démon. Tout le monde peut aider une personne, même quelqu'un qui est tout jeune dans la foi et qui vient de se convertir. On le voit dans Acte 16, hein, avec l'histoire de l'apôtre Paul qui va chasser le démon de cette femme qui avait un esprit de divination. Et là, je crois que c'est le texte, si je me souviens bien, où il est question de ces exorcistes ambulants, ces exorcistes fils d'un certain sacrificateur, les fils de Séva. Alors, quand je dis que tout le monde peut chasser des démons, attention, je nuance mon propos, hein. La condition, c'est d'être né de nouveau et de connaître le Christ. Parce que si on s'amuse à utiliser le nom de Jésus comme les fils de Séva qui ont vu des exorcismes, et eux, ça les a touchés, puisque c'était quelque chose qui devaient faire, mais ils n'avaient absolument pas de bons résultats avec leur manière de procéder. Et donc, ils ont dit, eh bien, nous, ils se sont adressés à l'esprit qui était dans une personne, ou aux esprits qui étaient dans une personne, et ils ont dit, nous vous chassons au nom du Jésus que Paul prêche. Et le démon qui tenait cette personne dira, ben Jésus je le connais, Paul je le connais aussi, mais vous je ne vous connais pas quoi. Hein? Et par conséquent ils n'ont eu aucune emprise et ils se sont fait rouer de coups et ils sont partis tout nus. Parce qu'une personne qui est possédée est une personne qui va décupler ses forces. Et donc face à elle on ne peut rien faire sauf si on connaît le Christ. Donc voilà, ça c'est un exemple qui nous montre que la personne ne connaissait pas le Christ. Maintenant, dernièrement, j'ai entendu un exemple qui m'a un petit peu surpris. C'était au mois de juin dernier, enfin c'était pas dernièrement, c'était l'année dernière. J'ai rencontré un frère qui travaille pour une société américaine et qui fait des films au Moyen-Orient pour montrer un petit peu comment l'évangile avance dans les pays musulmans. Et il m'a dit, dernièrement, me dit-il, j'étais là-bas en Afrique du Nord, je ne sais plus dans quel pays, et il a rencontré un imam. Donc un imam qui fait de l'exorcisme. Et donc il a discuté avec lui. Et cet imam lui dit qu'il a souvent eu affaire à des démons et que le nom qu'il utilise personnellement le plus souvent et qui marche le mieux, c'est le nom de Jésus. Il me dit, c'est le nom avec lequel j'ai les meilleurs résultats pour aider les gens. Toutes les autres formules que j'utilise, ça marche toujours moyennement, mais quand j'utilise le nom de Jésus, eh bien ça marche à tous les coups. Et c'est fou quoi, hein, parce que bon, apparemment il ne s'est jamais pris de coups comme les fils de Séva, peut-être qu'il a une certaine allégeance à Jésus, en tout cas dans ce domaine-là, mais simplement pour vous dire la puissance et la force qu'il y a dans le nom du Christ et aussi ce principe de l'autorité. L'autorité, notez-le, est liée à votre statut d'enfant de Dieu. Il nous est dit dans Jean 1, verset 13, « À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en lui ou en elle, c'est-à-dire la parole de Dieu, le Verbe de Dieu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Et donc lorsque nous devenons enfants de Dieu, et ce verbe, le verbe « pouvoir » a le même signification en grec dans cette signification de l'autorité, hein, donc par notre nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu et par conséquent, nous avons l'autorité. C'est-à-dire que nous agissons en tant qu'ambassadeurs, de la même manière que lorsque nous annonçons l'évangile à quelqu'un et que nous lui disons « si tu crois au Christ, tes péchés te sont pardonnés », vous le croyez, n'est-ce pas? C'est quelque chose que nous croyons, que nous disons tous. Nous disons « si tu crois au Christ, il pardonnera ton péché ». Il te pardonne, il te sauve instantanément. Et pourquoi nous le faisons? Parce que nous agissons en tant qu'ambassadeurs, en tant que représentant du Christ. Et là, c'est exactement la même chose aussi au niveau spirituel par rapport à la délivrance ou autre. Nous avons également l'autorité sur tout ce monde spirituel qui nous entoure. Maintenant, l'autorité aussi grandit. C'est certain que quand vous commencez dans ce domaine-là, vous n'avez pas la même hardiesse et la même autorité que quelqu'un qui aura plus l'habitude. L'autorité va grandir au fur et à mesure que vous allez l'exercer. C'est comme le témoignage. Plus vous allez témoigner, quand vous aurez conduit une fois ou deux fois quelqu'un au Seigneur, vous aurez encore plus confiance parce que vous savez qu'il est là, qui fait quelque chose. Et quand vous priez pour quelqu'un pour la délivrance et que vous voyez que ça fonctionne et que ça marche, ça fait grandir votre confiance dans le Seigneur et quelque part, cette autorité grandit. Mais cette autorité, elle est là, elle est à la base et elle est pour tout le monde la même. Donc ça veut dire que l'autorité n'est pas un don. Ce n'est pas quelque chose que Dieu nous donne. Ça, c'est les dons du Saint-Esprit. Les dons du Saint-Esprit, ce sont des cadeaux que l'Esprit de Dieu donne comme il veut. L'autorité, c'est lié à notre statut. Ça veut dire que tout enfant de Dieu a cette autorité. tout simplement. C'est à nous de l'exercer, bien entendu, avec intelligence et à bon escient. Alors, si vous voulez des exemples, lisez mon bouquin dessus. Je vous en ai déjà raconté quelques-uns ce matin. Juste un ou deux, là, dernièrement. Tiens, c'était au mois de janvier. Au mois de janvier, j'ai une dame de 70 ans, une bonne maman alsacienne chrétienne dans une bonne église évangélique, là, du côté de Mulhouse, qui me téléphone et qui me dit « Ah, pasteur, j'ai lu votre bouquin, là, sur le combat spirituel et j'aimerais vous raconter quelque chose. Quand j'étais jeune, j'ai été attaqué spirituellement à plusieurs reprises quand j'étais dans ma chambre le soir. Je ressentais des présences mauvaises et à l'époque on avait prié avec moi et c'était parti. Et donc j'ai vécu toute ma vie avec le Seigneur, j'ai toujours soutenu les missionnaires, etc. Et là, dernièrement, ce que j'avais vécu 50 ans, même plus auparavant, c'est revenu. Et dans ma chambre, j'ai senti des présences et j'étais perturbé la nuit. Alors je me renseigne pour voir si elle prend pas des médicaments, je me renseigne pour voir si elle n'est pas en train de perdre doucement peut-être sa tête ou certaines facultés, mais apparemment c'était pas le cas. Et donc je lui dis simplement, eh bien écoutez madame, vous avez lu mon livre maintenant et moi j'aimerais vous dire que vous avez l'autorité. Et ce genre de choses que vous vivez, vous n'avez pas à tolérer ça chez vous à la maison. Vous allez maintenant prier, exercer l'autorité que le Seigneur vous a donnée et ça va partir. Et puis j'ai aussi prié tout simplement pour elle au téléphone. Et quelques semaines après, cette brave Alsacienne me téléphone. Elle me dit, écoutez, c'est terminé, il n'y a plus rien, je suis tranquille. Alléluia. Mais les gens souvent ne savent pas et du coup, ils se laissent perturber. Alors qu'on soit perturbé, c'est une chose. Hein. Et parfois, ça peut être gênant, même pendant un certain temps, pour X circonstances. Mais quoi qu'il en soit, on doit toujours prendre autorité et l'exercer. Un jour, je suis en région parisienne et je vais visiter une sœur chez qui j'étais invité pour manger avec le pasteur. Elle me dit « Ah, j'ai ma voisine qui fait du vaudou, qui n'arrête pas de m'embêter, ça me perturbe, etc. Et » Et moi, je lui dis « Mais écoutez, ma brave dame, qu'elle vous embête, c'est une chose. Que ça revienne de temps en temps, ok, mais à un moment donné, il faut que ça cesse. Vous n'avez pas à accepter ce genre de choses. » Exercez, prenez l'autorité que le Seigneur vous a donnée, priez et vous allez voir, le Seigneur va intervenir. Ça me fait penser à un de mes amis missionnaires avec qui j'ai travaillé en Haïti, dans la ville des Gonaïves. Et c'est vraiment un homme de Dieu qui a aussi tout un ministère par rapport au vaudou, qui est quelque chose de profond, et vraiment c'est du gros, c'est du lourd là. Et quand il est allé en Haïti avec son épouse et leurs enfants, le Seigneur l'a vraiment appelé à aller là-bas. Et pour travailler dans ce pays, il faut vraiment un appel pour rester là-bas. Moi, j'y suis allé pendant plusieurs années. J'aurais pas pu rester des mois, quoi. Tellement c'est lourd et c'est dur là-bas. Et quand il est arrivé dans la ville des Gonaïves, il a loué une maison dans une rue. Et il a découvert que dans la même rue, tous les soirs, il y avait des tam-tams, il y avait des incantations qui étaient faites et qu'il y avait un prêtre, un ougan ou un mambo, comme ils appellent ça, un prêtre vaudou qui était là et qui faisait ses salam alek et tout ce que je vous veux là. Et lui s'est dit, mais c'est pas possible, quoi. Il y a un pasteur là qui vient et à côté de ça, il y a le prêtre qui est en train de faire ses trucs à côté et les gens le savaient. Et pour eux, voilà, il y a un conflit spirituel qui s'engage, qui est présent. Et donc, mon copain Patrice a vraiment prié pour ça et il a eu la conviction à un moment donné d'aller voir ce prêtre vaudou. Hein, il l'a salué, il lui a dit, écoute, il y en a un de trop dans la rue là. Si toi, tu es encore là dans un mois, je conviendrai ou j'en déduirai que Dieu ne m'a pas appelé à venir ici travailler et je repars avec ma femme et mes enfants en France. Il faut le faire quand même. Et tous les soirs, ils ont prié, ils ont jeûné avec l'église naissante. Eh ben, ça n'a pas duré 15 jours. Hein. Le prêtre, il est parti avec toute sa famille. Et il est parti, non pas parce que le pasteur lui a dit qu'il y en avait un qui était trop, mais parce que spirituellement, il a compris qu'il ne pouvait pas rester ici. Alors, n'en profitez pas hein, pour aller voir vos voisins. Hein. J'en vois déjà, il y en a qui ont des conflits avec les voisins. Là. Il y en a un trop, là, ici. Hein. Ce n'est pas le genre de choses qu'il faut dire ou qu'il faut faire en général. Lui, il a agi parce qu'il a eu la conviction, Dieu lui a donné cette conviction. Mais sinon, on ne va pas agir n'importe comment. Mais simplement pour vous dire qu'il y a quelque chose de fort. Et pour vous montrer jusqu'où ça peut aller, je me rappelle avec l'ancien de la communauté, avec Raymond Gézère et pasteur Philippe Figuère, que vous connaissez peut-être, à quelques centaines de mètres à d'elle, il y avait un bar avec des filles, quoi. Donc voilà, des prostituées, les gars, ils allaient là, c'était jusqu'à 1 heure, 2 heures, 3 heures, et donc c'était pas très loin de l'église, et nous on voyait ça chaque fois qu'on passait devant, et ça nous dérangeait spirituellement, etc. On s'est dit, mince, c'est pas normal, quoi. Et ce qu'on a fait avec le pasteur, il y avait Raymond, il y avait moi-même, chaque fois qu'on passait devant cette maison, qu'on était dans notre voiture, on disait, au nom de Jésus-Christ, cet endroit, il va fermer. Ben vous me croyez ou pas, quelques mois après, ça a fermé. Et c'est quelqu'un qui l'a racheté et qui en a fait des appartements. Alors, je ne dis pas qu'il faut utiliser le nom du Seigneur et l'autorité que le Seigneur nous donne n'importe comment. Mais ce que je vous dis, c'est que voilà, le Seigneur nous a confié une autorité. Et lorsqu'on a foi et qu'on exerce notre foi, Dieu fait des choses qui parfois peuvent nous dépasser ou nous surprendre. Et parfois, on n'en a pas conscience. Et on n'utilise pas l'autorité que le Seigneur nous donne. Allez, on ne va pas voir tous les trucs que j'ai prévus là, sinon on ne va pas terminer. Je précise aussi, comme je l'écris dans le livre sur le sujet, sommes-nous tous des chasseurs de démons? Pouvons-nous tous l'être? D'une certaine manière, je dirais oui. Et je précise que le ministère de délivrance, ou ce que nous appelons aujourd'hui dans nos milieux évangéliques ministère de délivrance, n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y a pas de ministère de délivrance. La délivrance, normalement, c'est l'église locale qui doit la faire. Et pas des spécialistes. Et si parfois ce sont d'autres personnes qui le font, c'est parce que peut-être qu'on a perdu quelque chose qu'on aurait besoin de retrouver. Moi, ça m'est arrivé d'avoir des gens qui me téléphonent. Et si je vois que les gens sont en contact avec une église évangélique, moi, je leur dis, vous allez voir le pasteur. Ah, mais il ne croit pas, il ne prie pas. Mais je dis, je m'en fous, vous allez le voir. Vous lui dites, vous êtes pasteur ou vous êtes ancien, priez pour moi. Et si vraiment il ne veut pas prier pour vous, je prierai pour vous. Mais qu'il fasse son job, c'est à lui de prier pour vous. N'importe qui peut le faire. Moi, je n'ai pas un don pour faire ça. Absolument pas. N'importe quel chrétien peut le faire. Ce n'est pas une question de don. D'autres outils encore que le Seigneur nous donne. On va passer sur la parole de Dieu. Ça, ce sont des choses que vous connaissez déjà. On ne va pas terminer trop tard. Hein ? Le nom de Jésus, peut-être. Allez. Le nom de Jésus est lié à l'autorité que le Seigneur nous a donnée. Et donc, le nom de Jésus est puissant. Et s'il est puissant, c'est parce que dans Philippiens, au chapitre 2, versets 9 à 11, il nous est dit que puisque Jésus s'est abaissé, et s'est humilié, et qu'il est allé jusqu'à la mort sur la croix, Dieu l'a souverainement élevé. Et par conséquent, lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Et ça revient à ce que nous disions hier soir. Dans le domaine spirituel, il y a un principe que vous devez comprendre qui est très important, qui est lié au nom de Jésus et qui est lié à l'autorité, c'est ce qu'on appelle le principe de l'allégeance. Alors ça fait un peu moyenâgeux, mais c'est une réalité. Et le principe d'allégeance, c'est quoi? C'est une obligation de fidélité et d'obéissance qui incombe à une personne, envers la nation à laquelle elle appartient, ou envers le souverain dont elle est sujette. Donc le principe d'allégeance... Si moi j'ai fait allégeance à Jésus-Christ, c'est-à-dire je me suis soumis à lui, parce que devenir chrétien c'est ça, devenir chrétien c'est pas répéter une prière, s'il te plaît Seigneur Jésus, viens sauve-moi, devenir chrétien c'est je soumets ma vie à un autre, il est mon maître, un bon maître, mais il est mon maître, donc il a le droit de vie et de me conduire ou de me diriger comme il veut, normalement. Donc ce principe d'allégeance est très important au niveau spirituel. À partir du moment où il y a ce principe d'allégeance, tous ceux qui sont en dessous lui doivent reconnaissance et doivent se plier à lui. Et dans le domaine spirituel, eh bien, c'est ainsi que ça fonctionne. Et on le voit dans Luc 10, versets 1 à 2, lorsque les disciples ont chassé des démons, Luc 8, 12, Luc 8, 20 aussi, eh bien, les disciples chassent des démons et en chassant des démons, ceux-ci sont obligés de se plier au Christ puisqu'ils sont soumis à Jésus. Et on le voit dans les évangiles, chaque fois que Jésus apparaît et qu'il y a des démons, ils se mettent à crier, ils hurlent, ça va dans tous les sens, ils sont pris de panique. Et s'ils sont pris de panique, c'est parce qu'ils savent que le maître est là. Et Jésus a toujours un coup d'avance sur l'ennemi, puisque les démons vont lui dire, mais pourquoi viens-tu nous troubler? Hein? Ils sont surpris, ils savaient que ce temps devait venir, mais ils ne savaient pas quand c'était ce temps-là. Parce que Dieu seul connaît l'avenir et Dieu a toujours une longueur, une grande longueur d'avance sur l'ennemi et sur ses plans. Donc le principe d'allégeance, quand vous annoncez, quand vous prononcez le nom de Jésus-Christ, les démons sont obligés de partir et de quitter l'endroit. Il y a 3 ans de cela, ou 4 ans de cela, je ne sais plus, nous venions d'arriver en Alsace, et c'était pendant le temps de Pâques aussi. Voilà que début de la semaine sainte, je reçois un SMS, et il y a une dame qui me dit, écoutez, je suis médium guérisseuse en Bretagne, j'aimerais prendre rendez-vous avec vous. Et donc je lui fixe un rendez-vous téléphonique, et c'était le vendredi saint, qui est chômé en Alsace, et début d'après-midi, voilà que je suis dans mon bureau, et elle m'appelle. À l'autre bout du fil, j'ai une femme qui est complètement en pleurs, paniquée, qui à un moment donné va se calmer, qui reprend ses esprits, une femme, semble-t-il, voilà, qui est intelligente et qui me raconte un peu sa vie. Elle me dit, ça fait, je ne sais plus, 9 ou 10 ou 11 ans que je suis médium guérisseuse, je vis de ça. Donc je dis l'avenir aux gens, je leur fais des passes magnétiques, je les guéris, etc. Mais elle m'a dit, ces derniers mois, ça ne va plus du tout dans ma vie, il y a tout qui va de travers, et je me suis demandé s'il n'y avait pas un lien de cause à effet. Et si ce n'était pas à cause de ce que je vivais, qu'il y avait tous ces problèmes qui se manifestent dans ma vie et dans ma famille. Et cette femme était tellement désespérée qu'elle est allée dans une petite chapelle catholique, oui, et que là, elle a passé la journée en prière et en jeûne. Et le soir, lorsqu'elle sort de cette chapelle, elle voit un stand avec quelques livres, et dont mon livre, qui est aussi diffusé par les catholiques, d'ailleurs qu'ils ont bien apprécié, Dieu merci, sur la question des médiums guérisseurs, qu'est-ce qu'ils ne vous disent pas? Et elle se dit, ben mince, alors moi je suis médium, je suis guérisseuse, qu'est-ce que je ne sais pas que je devrais savoir? Et elle a acheté le livre et elle l'a lu. Et là, quand elle a découvert ça, elle est tombée sur les fesses. Et quand elle a commencé à lire la partie biblique, elle m'a dit dans ma tête, tous mes guides spirituels, parce que c'est ainsi qu'ils parlent, hein, les médiums, ils ont tous un guide spirituel en réalité un démon, mais eux ils appellent ça un guide spirituel qui se révèle à eux et qui va les conduire, qui va les guider tout au long de leur vie. Eh bien mon guide spirituel, mes guides spirituels, ils crient dans ma tête, ils hurlent, et ils me disent de ne pas lire les versets de la Bible. Et elle m'a dit, j'ai répété la prière que vous proposez à la fin pour accepter Jésus, je lui ai demandé pardon, elle me dit, je ne veux plus faire ça. Elle a dit, mais comment est-ce que je vais faire pour vivre? Voilà. Alors bon, c'est facile, à Strasbourg, je lui dis, écoutez, si vous suivez le Christ, moi j'aimerais vous dire une chose, il ne sera jamais votre débiteur. Il prendra soin. Alors c'est un peu facile pour moi de le dire, surtout que ben, pour l'instant je ne peux pas vous proposer d'aide plus concrète que l'aide spirituelle que je vous propose, mais il prendra soin de vous. Et cette femme était complètement remuée intérieurement. Et elle me supplie au téléphone de l'aider. Je lui dis, écoutez, moi je suis à Strasbourg, je prie pour les gens au téléphone, mais d'habitude, voilà, quand je vois que les gens sont squattés comme ça par des esprits, je préfère être sur place, parce que si elle tombe et se blesse, n'importe quoi, je suis responsable. Et je lui dis, je vous propose de vous mettre en relation avec un pasteur, et il viendra, et il priera pour vous, il le fera. Et elle me supplie pendant 10 minutes de prier pour elle et de l'aider. Première fois que quelqu'un me supplie pour que je prie pour cette personne-là. Et donc, au nom de Jésus, je me suis adressé à ces esprits, tout simplement, et je les ai chassés. Et ils sont partis en hurlant. Elle hurlait au téléphone, quoi. Et ça a duré quelques minutes, et après, c'était tout calme, tout paisible. Et quelques jours après, elle me téléphone ou elle m'envoie un SMS, je ne sais plus comment ça s'est passé. Et elle m'a dit, écoutez, c'est fini, là. Je dors bien, je n'ai plus aucune voix qui crie dans ma tête. Ils sont tous partis. Et cette femme a même témoigné à des patientes qui venaient, parce qu'elle m'a dit, je dois avoir des clientes, qu'est-ce que je vais faire maintenant avec elles, hein, parce que je vis de ça. Eh ben, en tout cas, elle a dû bien leur témoigner, parce que quelques jours après, j'ai une de ces clientes qui me téléphone, j'étais en réunion à Paris, tout d'un coup je reçois juste avant la réunion un téléphone, elle me dit, Pasteur Manline, je suis allé voir la médium à telle, elle m'a dit qu'il ne fallait plus faire ça, et c'est fini, je ne ferai plus jamais, et elle me raccroche au téléphone, quoi. Alors tu vois, moi j'avais envie de discuter avec cette dame, quoi, d'aller plus loin, mais elle était effrayée, quoi. En tout cas, elle a bien fait son travail parce que elle lui a rien prédit, elle a rien fait, quoi. Après, ça a été difficile quand même, hein. Elle m'a retéléphoné 2 ans ou 1 an après, je sais plus. Elle n'était pas dans une église. Après, elle est allée dans une église, elle s'est fait baptiser. L'année dernière, elle m'a rappelé de nouveau parce qu'elle vivait un moment de nouveau un petit peu difficile où elle était tentée de revenir dans ses anciennes pratiques. Vous voyez comme c'est subtil, mais elle a tenu bon et elle continue de persévérer dans la foi. Mais tout ça pour vous dire que le nom de Jésus est puissant. Hein. Alors, le nom de Jésus, c'est pas un mantra qu'il va falloir utiliser n'importe comment, hein, mais tout chrétien a l'autorité et peut invoquer le nom de Jésus pour libérer et prier pour quelqu'un. Alors, deux conseils juste par rapport au nom de Jésus. Se rappeler que la puissance ne se trouve en Jésus, elle ne se trouve pas en nous-mêmes. C'est la grande différence par rapport au monde occulte. Si vous allez voir un guérisseur ou un médium, il vous dira qu'il a le don. Et ce don se manifeste en permanence. Alors que nous, en tant que chrétiens, la puissance ne se trouve pas en nous. Elle est toujours liée à la personne de Jésus. Et les dons spirituels, c'est la même chose. Si Dieu nous donne un don de guérison ou un don de parole de connaissance, eh bien, le don de parole de connaissance ne se manifeste que lorsque l'Esprit de Dieu nous le redonne à nouveau. Alors bien sûr, quand on a l'habitude d'avoir ce don-là, on est beaucoup plus sensible et ça vient plus vite. Mais ce n'est pas tout le temps présent en nous. C'est toujours soumis à la présence de Dieu. Donc c'est toujours lié à la personne de Dieu et du Christ. Or, dans le monde spirituel occulte, c'est jamais comme ça que ça fonctionne. Donc déjà, ça nous éclaire un petit peu. C'est un autre mode de fonctionnement qui nous montre qu'il y a autre chose qui se cache derrière. Et puis, le nom de Jésus, ce n'est pas un mantra. C'est-à-dire, ce n'est pas une prière que vous allez réciter comme ça, comme une ritournelle, encore et encore. Et puis finalement, on s'imagine qu'après avoir enfin répété 50 ou 100 fois le nom de Jésus, enfin, il va se réveiller. Ah, il était en sommeil. Ou il était en vacances en Guadeloupe. Et puis, puisqu'on a crié fort, hein, il se lève et puis enfin il dit « oui, on m'a appelé ». Ou alors il a des problèmes de surdité peut-être. Hein. Non, absolument pas. Le nom de Jésus, ce n'est pas un mantra. Il suffit d'avoir foi, confiance dans ce nom. On va laisser tomber quelques autres outils que le Seigneur met à notre disposition. Donc il y a la parole de Dieu, il y a le nom de Jésus, il y a ensuite le sang de Jésus aussi, le sang de Jésus qui fait référence à son œuvre sur la croix ou à la croix. Et puis, il y a aussi les dons de l'Esprit. Alors, moi, je dis juste un mot là-dessus. Pour moi, c'est quelque chose d'important qui m'a vraiment éclairé dans mon cheminement spirituel. Donc, les dons de l'Esprit, de quoi s'agit-il et comment est-ce qu'ils peuvent nous aider ? Un jour, alors que j'étais en train de lire un bouquin de Maurice Ray, et qu'il parlait justement des différents dons que le Seigneur nous donnait pour le combat spirituel et pour aider ceux qui sont liés, c'est lui qui parlait des dons spirituels. Et je voyais pas trop comment les dons spirituels, dans le cadre de la délivrance ou même, pouvaient nous aider. Et puis finalement, ces arguments m'ont convaincu, et je me suis dit, effectivement, il y a quelque chose d'important. Et si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, vous allez voir que le principal protagoniste, la clé qui a permis à ce que l'Église primitive se développe et connaisse une telle croissance, et que l'Évangile soit répandu, que les gens soient libérés, etc., c'est vraiment la personne du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui a permis ce développement extraordinaire de l'Église primitive. Et vous avez entre autres ce passage dans Actes 16, versets 6 à 10, où il nous est dit ceci, « Empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole en Asie, donc ils traversèrent, c'est-à-dire Paul et son équipe, hein, il y avait Luc dedans entre autres, qui a écrit le livre des Actes, la Phrygie et la Galatie. Arrivés près de la Mysie, vous voyez où ça se trouve je pense, tout le monde voit où se trouve la Mysie, hein, ils se préparèrent à quitter en Bithynie, là aussi, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent alors la Mysie et descendirent à Troas. Et pendant la nuit, Paul eut une vision, un Macédonien lui apparut et le supplia, passe en Macédoine, secours-nous. Est-ce qu'on peut s'imaginer ça un instant? L'Esprit du Seigneur qui leur empêche d'aller là où ils veulent pour annoncer l'Évangile. C'est un truc de ouf ça. S'il y a bien quelqu'un qui veut que l'Évangile soit répandu, c'est le Saint-Esprit, puisque c'est pour ça qu'il a été envoyé, pour glorifier la personne du Christ, que partout il soit reconnu. Pendant la nuit, ben voilà, le Seigneur lui parle, il lui parle au travers d'un don spirituel, et il lui montre et il comprend que ce n'est pas à cet endroit-là qu'ils doivent aller, mais que c'est ailleurs qu'il faut aller. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'iront pas dans cet endroit. D'ailleurs, ils y passeront plus tard, si mes souvenirs sont bons, pour faire l'œuvre. Ça veut dire que dans le travail d'annonce de l'Évangile, et ça veut dire aussi que par rapport à libérer les gens, les captifs, etc., il y a les temps, il y a les moments de Dieu. Et il faut être sensible à la manière dont le Seigneur veut nous conduire. Et Dieu utilise aussi les dons de son esprit. Alors quand je parle des dons de l'esprit, je parle ici surtout de ce qu'on appelle les dons de révélation. Les dons de révélation, c'est quoi? C'est la parole de connaissance, c'est la prophétie aussi, hein. 1 Corinthiens 14, Paul dira « aspirez », littéralement en grec « xéloutez », c'est-à-dire « soyez zélés ». Soyez zélés pour les dons, et en particulier la prophétie. Et pourquoi la prophétie? Parce que la prophétie, elle exhorte, parce que la prophétie, elle est actuelle, parce que la prophétie, elle aide, elle encourage, elle édifie. C'est une parole qui tombe à propos et qui aide. Et les dons de révélation nous permettent aussi de connaître la pensée de Dieu par rapport à un sujet précis, dans une circonstance bien définie. Et par conséquent, ça peut vraiment nous aider. Moi, je vous raconte un exemple que j'ai vécu, et vraiment, c'est quelque chose qui m'avait vraiment touché. Alors, c'est plus par rapport à l'œuvre que Dieu veut faire, mais ça, c'est un lien aussi avec notre sujet. Première fois que je suis allé au Bénin, c'était en 2009. Et c'est un ministère, un prophète qui est devenu un ami depuis, qui m'avait invité là-bas. Donc je ne le connaissais pas, mais il me semblait sérieux. Et effectivement, il l'est. Entre-temps, on s'est revus plusieurs fois en France et aussi là-bas. Et il m'invite pour passer, pour un temps d'enseignement pour des pasteurs, etc. Et le soir, il m'a fait tourner dans plusieurs églises pour faire un petit peu connaissance et prendre la température au niveau spirituel. Et pendant cette semaine-là, vraiment, on a vécu un bon temps. J'étais accompagné par un jeune qui faisait ses études à Nogent et qui s'intéressait un petit peu au ministère. Et puis tout d'un coup, en plein milieu de la semaine, je suis réveillé entre minuit et une heure, je ne sais plus. Et là, je suis réveillé, je me réveille en sueur et angoissé en pensant à mon épouse. Il y a notre petit dernier, Raphaël, qui devait avoir 2 ans à ce moment-là. Et je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec le petit, mais que ça ne va pas sur le moment. Et tout de suite, ça ne m'arrive pas ce genre de truc habituellement, tout de suite je prie, je prends autorité et je prie pour lui et je prie pour Fabienne. Le lendemain matin, je téléphone à mon épouse et je lui dis « comment tu vas ?» Elle me dit « écoute, ça ne va pas, j'ai passé une nuit horrible, le petit était malade, il n'arrivait pas à dormir. Habituellement, mon épouse, même si les enfants sont malades, elle les endort en 2 temps, 3 mouvements. Et là, impossible de l'endormir, elle était assise sur le lit et à un moment donné, elle s'est sentie mal, mais vraiment mal spirituellement. » Elle a compris qu'il y a quelque chose, là, il y avait un enjeu, mais elle ne savait pas quoi. Donc, elle a aussi prié, et puis après, voilà, le petit s'est endormi. Je rencontre à 8 heures à l'hôtel le pasteur qui vient nous chercher pour partir enseigner, et on discute un peu, et puis en Afrique, c'est souvent comment la nuit a été, etc. Et le pasteur nous raconte que pendant son temps de culte le matin, quand il s'est levé à 4 heures du matin pour prier jusqu'à 6 heures comme ils le font souvent, eh bien, le Seigneur lui a donné la vision d'un petit garçon qui était dans un trou et qui était perdu et comme s'il allait mourir. Et il a été poussé à prier pour cet enfant qu'il connaissait pas, mais il savait pas ce que c'était. On vit notre journée, le soir je vais prêcher dans une église, et là, à la fin de la prédication, il y a une dame qui est présente, qui ne fait pas partie de l'église, avec son enfant, et qui demande à ce qu'on prie pour elle. Donc le pasteur de l'église, avec quelques anciens, nous demande de venir, et finalement, on découvre que cette femme est une femme du quartier, et que 2 ou 3 jours auparavant, je ne sais plus, son garçon, qui devait avoir 11 ou 12 ans, alors qu'il se rend à l'école, a vu comme une sorte de serpent, au niveau spirituel, qui lui avait sauté dessus et qui était coincé en lui. Et le gamin était complètement perturbé et la mère était perturbée. Elle ne savait plus quoi faire, si elle devait aller voir les marabouts ou que sais-je. Elle avait un visage terrorisé, quoi. Et le gamin, totalement... Et je regarde mon copain Léopold et je lui dis, mais le gamin, il a quel âge, là? 11, 12 ans, quoi. Est-ce que ce n'est pas le petit que tu as vu ce matin? Et c'était exactement ça, ce petit qui était comme dans un trou. Et donc nous avons prié pour lui et nous l'avons délié au nom du Seigneur. Et ensuite l'Église a pris soin de la maman et de ce petit. Mais notre semaine n'était pas terminée, donc on continue notre semaine, hein, tranquille, etc. Arrive le dimanche, et le dimanche je devais prêcher dans une nouvelle église pentecôtiste, un nouveau bâtiment. Un bâtiment comme j'en ai jamais vu jusqu'à présent, même en Europe. Un bâtiment magnifique. C'est là où on avait eu les réunions pendant toute la semaine, ils avaient un sous-sol, ils avaient un premier étage qui était entièrement carrelé, avec des persiennes fumées, avec les ventilateurs, avec la clim, avec un écran qui faisait 4 fois cet écran-là, avec une table de mixage au 2e étage, bref, c'était le grand luxe, quoi. Bon, il y a aussi plusieurs membres du gouvernement qui viennent dans cette église. Et le pasteur, je discute avec lui et il me dit, écoute, dimanche, on fait évangélisation. Et puis moi, je suis évangéliste hein, à la base. Et j'étais tout content, quoi. Je me suis dit, ah, chouette, 600 personnes, là, on va prêcher l'évangile, hein. Ça va être bien, ça. Et effectivement, je me prépare pour ça. Arrive le dimanche matin, je me réveille, et je reprends le texte de ma prédication que j'avais prévu, et plus je le lis, et moins je le sens. Alors, habituellement, j'essaye de pas trop me baser sur ce que je ressens, parce que nos émotions peuvent nous conduire au mauvais endroit. Mais là, j'ai le sentiment spirituellement que je ne dois pas prêcher ce message-là. Alors ça, c'est embêtant. Hein, bon, alors je vais prendre mon petit déjeuner, j'en parle à mon collègue qui est avec moi. Je dis, oh, qu'est-ce que je vais faire ce matin? C'est pas trop, quoi. Hein. Et puis, bon, il faut vite s'apprêter parce qu'ils viennent vous chercher. Heureusement que la louange dure 1h30. Hein, donc là, c'était bien, là, hein, pour une fois. Je me suis dit, ah ben voilà, 1h30 de louange, là, t'as de quoi réfléchir, t'as de quoi prier. Puis je prie, j'essaye d'écouter, je parle à l'assistant du pasteur et tout. Et je dis, mais qu'est-ce que je vais prêcher ce matin? Et puis tout d'un coup, la conviction s'installe en moi. Il faut que tu prêches sur le pardon. Et puis j'ai... Je me suis dit, bon, on va prêcher là-dessus, quoi, hein, sur le pardon, mais je n'ai pas le temps de rassembler assez mes idées, de regarder des notes que je peux avoir là-dessus. Je me suis dit, bon, il faut y aller, il faut se lancer. Et puis, je prêche sur le pardon. Et vraiment, j'ai insisté dans mon message sur le pardon entre les frères et les sœurs. Et j'ai dit des trucs que je n'aurais pas dit en temps normal, parce que je me suis dit, c'est un peu culotté quand même. Hein, tu ne les connais pas, ils t'invitent, ils sont sympas avec toi. Et puis, toi, tu leur rentres dans l'art, là, et tu leur parles de situation. Et à la fin de mon message, je ne fais pas d'appel. À la fin de mon message, je dis simplement, ben voilà, si vous voulez que le Seigneur vous bénisse et que votre église, elle grandisse et prospère, parce que vous voulez, il y avait de la place pour mettre 1500 personnes là-dedans, eh ben, il va falloir que vous régliez les situations entre vous. Je me dis, mais je m'assois. Je dis, ben mince, je suis culotté, quoi, dire un truc comme ça, quoi. Et là, je m'assois, et tout d'un coup, il y a une dame qui vient, là, une maman africaine, qui vient, qui prend le micro, qui commence à pleurer, qui commence à demander pardon, une deuxième, une troisième qui vient, le pasteur qui fait venir le groupe de louanges parce qu'il faut terminer le culte qui se termine, et là j'ai 20 ou 30 personnes devant moi qui viennent et qui sont en pleurs, mais en pleurs. Alors avec la musique qui joue derrière, ils veulent tous parler avec moi, mais avec le traducteur je ne comprends pas, enfin c'est un bazar pas possible, mais je comprends que le Saint-Esprit est en train d'agir, mais qu'il est en train de faire vraiment quelque chose de fort, quoi, parce que les gens sont touchés, ils sont bouleversés. Et puis finalement, on doit partir parce qu'il faut se préparer, parce qu'on devait partir assez rapidement. Mais le Seigneur a commencé quelque chose. Et dans les 15 jours qui ont suivi, j'ai reçu un long mail que j'ai encore chez moi à la maison d'un des principaux responsables de cette église qui m'a écrit, qui m'a raconté ce qu'il vivait et qui me disait que ça faisait des mois et des mois qu'il vivait des conflits, qu'il y avait des choses énormes qui étaient là dans l'église et qui priaient et qui suppliaient le Seigneur d'intervenir et de venir à leur secours. Et ce matin-là, le Seigneur a utilisé un pauvre petit Alsacien, quoi, hein, pour initier quelque chose. Et ce matin-là, il y a eu un réveil, quoi. Ça a duré 2 mois pendant cette église. 2 mois où les gens sont venus les uns vers les autres. Ils se sont repentis, ils ont accordé des pardons, ils ont remis des situations en place. Ils ont vécu un véritable réveil qui a duré pendant 2 mois. Vous voyez ? Et je les ai rencontrés après, puisque en 2016, en 2014, j'étais invité par le président des Assemblées de Dieu, qui est un ami, qui m'avait invité pour un temps de formation pour les pasteurs, et j'ai rencontré des personnes qui faisaient partie de cette église, hein, qui m'ont rappelé encore cet événement qu'ils avaient vécu, qui les avait marqués. Donc tout ça, je dis, mais que se serait-il passé ce jour-là si j'avais prêché le message que j'avais prévu ? Vous voyez ? Si j'avais prêché le message que j'avais prévu, il était bon ce message-là, hein, c'était l'évangile. Mais ce n'était pas ce que l'Église avait besoin d'entendre à ce moment-là. Parce qu'il y avait des liens spirituels qui étaient là, dans la vie de plusieurs croyants. Alors ce jour-là, j'ai écouté, mais j'imagine qu'il y a eu plein d'autres moments où je n'ai pas écouté, hein, où je n'ai pas eu le courage de faire ce que le Seigneur me disait, et qu'ainsi, peut-être, parfois, nous pouvons passer à côté de certaines choses. Donc les dons spirituels, c'est vraiment important, parce que le Seigneur nous les accorde justement pour son œuvre et pour que ça puisse être utile pour les uns et pour les autres. Et parfois, ce n'est pas grand-chose, hein, absolument pas grand-chose. Donc, on se rappellera par rapport aux dons spirituels, ce n'est pas le thème de notre week-end, eh bien qu'ils sont pour aujourd'hui, ça c'est la première des choses que nous dirons. On se rappellera également que l'Écriture nous encourage à aspirer aux dons spirituels et que tout chrétien peut recevoir des dons. On se rappellera également, comme le dit l'évangéliste Reinhard Bonnke dans un de ses ouvrages sur les dons spirituels qui est sympathique, que ce ne sont pas des médailles honorifiques. Ça veut dire que le Seigneur ne nous donne pas des médailles, il ne nous décore pas. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien depuis 15 ans ou depuis 50 ans et qu'on a été fidèle et bon et qu'on a été un fidèle donateur, qu'on a bien soutenu les missionnaires et que, ben voilà, on est quelqu'un de fidèle qui aime le Seigneur, que Dieu va nous donner plus de dons. Dans le royaume de Dieu, ça ne marche pas comme ça, vous le savez. Tout ce que le Seigneur nous donne est grâce. Le salut est une grâce. Et tout ce que nous pouvons vivre, le fait que nos enfants se convertissent, le fait que le Seigneur nous bénit dans les différents domaines de notre vie, plus ou moins, les uns les autres, tout ça, c'est une grâce que Dieu nous accorde. Bien sûr, nous y sommes aussi pour... On n'y est pas pour quelque chose, mais nous-mêmes, nous faisons preuve de fidélité. Mais ce n'est pas à cause ou grâce à cela que le Seigneur va nous bénir. Et puis également, on se rappellera qu'ils peuvent également nous aider dans le combat. Lorsque le Seigneur nous révèle certaines choses ou nous met à cœur certaines choses par rapport à des situations, parce que le Seigneur veut qu'on puisse aider les autres pour les libérer. Et parfois, on ne sait pas écouter sa voix. Moi, je me rappelle, j'étais un jour dans le nord de la France, c'était il y a bien des années, et j'étais pour des réunions d'évangélisation, et puis le dimanche après-midi, il y avait une réunion d'évangélisation, et tout d'un coup, après, il y a une dame qui vient pour un entretien. Et je la vois arriver, et elle était peut-être à ta hauteur, là, Jean-Paul, et elle était là, et alors qu'elle était à cette hauteur-là, dans mon esprit, tout d'un coup, j'entends qu'il me dit, cette femme a un problème avec l'alcool, il faut lui en parler. Et moi, je me dis, qu'est-ce que c'est ça, là, tu vois, hein? Et puis, tu vois, quand tu as prêché, j'étais vraiment pas dedans, mais je reçois cette pensée très forte qui s'inscrit dans mon esprit. Puis la femme, elle arrive, et puis, alors, tu vois, moi, je m'approche d'elle quand elle me parle pour voir si elle sent l'alcool, hein? Et puis, elle sentait absolument pas. Alors, je me dis, et puis, en plus, elle était chrétienne, et je me dis, je sais pas pourquoi, dans mon esprit, il y a un truc qui s'est fait, je dis, mais elle est chrétienne, elle sent pas l'alcool, elle peut pas être alcoolique, quoi, elle a pas de problème, tu vois. Il y a un truc qui s'est fait dans ma tête, et j'ai laissé tomber cette pensée-là. Et j'ai prié avec elle, j'ai vu qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, mais c'était ça, mais je me suis dit, non, c'est pas ça. Et elle part. Et à la fin de la réunion, j'en parle, c'était une église KF, donc très traditionnelle, une église de frères, j'en parle juste aux anciens, à mon copain Jean Schrumpf, qui est aussi évangéliste, qui travaille dans cette église, et je lui dis, ouais, c'est rigolo, hein, Jean Schrumpf, hein. Allez, on rit un bon coup, tu sais, on a le droit, hein. Pas Schrumpf, hein, mais Schrumpf, mais ça ressemble, hein. Et donc, je lui dis à Jean, je trompe, écoute, j'ai eu cette pensée-là tout à l'heure, et je suis un peu gêné maintenant parce que j'ai rien fait, je ne sais pas, vous êtes au courant de quelque chose? Il me dit, ah ben non, nous, on n'est pas au courant, on ne sait pas, bon, voilà. Bon, ils ont gardé ça. 2 ans après, je le revois au centre évangélique, à Logne. Il me dit, Manuel, viens ici. Il me dit, tu te rappelles cette dame? Je dis, ouais, ouais. Et je dis, eh ben écoute, il y a quelques semaines, là, elle vient de nous voir, et elle vient de nous avouer son problème. Qu'elle avait un gros, gros problème à l'alcool, qu'elle était vraiment liée par cela. Et maintenant, elle suit et on prie pour elle. Donc, je vais demander pardon au Seigneur, quoi. Le Seigneur voulait libérer cette femme, voulait faire quelque chose pour elle, mais parce que moi, je n'ai pas eu assez confiance pour lui dire ce que j'avais reçu, hein, avec des gants, elle est passée à côté de quelque chose. Voilà. Donc, des fois, le Seigneur, vous voyez, il nous met des choses à cœur, mais il y a toujours un pas de foi à faire. Allez, on va arrêter là pour ce soir. Il y avait encore une dernière clé que je voulais mentionner. Je vous la donne juste comme ça, c'est la prière. On ne va pas rentrer dans les détails, mais la prière. Donc la prière, vraiment, la prière, c'est en réalité, c'est, je la mets en dernière, mais c'est même la clé numéro une. La prière avec parfois aussi le jeûne. Donc il y a des temps, des moments où Dieu nous pousse parfois à jeûner. Il nous dit maintenant, en tant qu'Église ou en tant qu'individu, personnellement, il faut prendre du temps pour jeûner. Moi, l'année dernière, j'étais à Brazzaville, au Congo-Brazza, et je travaillais avec un serviteur de Dieu, là, un enseignant, puis il y avait aussi un apôtre, enfin bref, ils ont toutes sortes de titres, hein, mais c'était des gars sérieux, donc on n'a pas eu de soucis, c'était pas des farfelus, j'en ai déjà rencontré, eux, ils étaient vraiment sérieux, c'était des gens très très simples et vraiment des vrais serviteurs de Dieu, très humbles aussi. Et le Seigneur m'a interpellé parce que j'ai vu cet homme qui a commencé une église dans un bidonville, dans un contexte très occulte, une église qui est florissante maintenant. Et cet homme-là est un homme qui, voilà, toutes les semaines, il passe un jour entier dans le jeûne et dans la prière, quoi. Il est là en train de jeûner, en train de prier. Et le Seigneur m'a interpellé, il m'a dit, mais regarde, il m'a dit, il faut que tu jeûnes davantage, quoi. Et donc, ben voilà, suite à ça, j'ai pris certaines résolutions dans ma vie. Hein, parfois, Dieu nous demande ou nous conduit. Alors, bien sûr, il ne faut pas le faire de manière légaliste, s'imaginant que parce qu'on a beaucoup prié ou beaucoup jeûné, tout d'un coup, Dieu va nous bénir davantage. Mais il y a parfois des paliers dans notre vie ou dans la croissance de l'Église ou par rapport à l'accompagnement de certaines personnes où les petites choses qu'on fait ne suffisent plus. Il faut rentrer dans un temps d'intercession en tant qu'Église à plusieurs personnes, vraiment, où on est là, on se tient dans la prière et on insiste, on prie, on jeûne, on attend la réponse, on attend le secours qui vient de l'Éternel. On n'attend pas le secours qui vient des hommes, mais on attend le secours qui vient d'en haut, parce qu'on est confronté à des situations qu'on ne peut pas régler d'un point de vue humain, qui sont trop grandes et plus difficiles que nous. Voilà. Nous allons arrêter là. Hein, ça fait une bonne soirée, là, bien chargée. Personne ne s'est endormi, j'ai l'impression. Hein? Est-ce que vous avez peut-être des questions, des réflexions hein, par rapport à ce que j'ai dit ce soir, ou alors ce matin, ou encore hier soir sur notre sujet? Des réflexions, des questions, des remarques? Oui, Rémi. Alors, je ne sais pas si cet imam avait foi ou pas foi en Jésus-Christ. Le gars qui m'a relaté cette histoire est très sérieux, c'est un évangélique très traditionnel. Je ne remets pas en cause ce qu'il m'a dit, absolument pas. Je ne sais pas si cet imam avait la foi ou n'avait pas la foi, mais en tout cas, ce gars-là est dans le domaine spirituel. Et dans le domaine spirituel, tu as des principes qui existent. Et si tu as compris ce principe de l'allégeance, eh bien, tu sais très bien qu'en utilisant le nom, eh bien, le nom réside, la force ou la puissance réside dans le nom. Et si tu crois que ce nom-là est vrai, que ce personnage, en l'occurrence le Christ, a existé, et qu'il est réellement ce qu'il dit être, et qu'il peut faire ce qu'on voit dans les évangiles, eh bien, on sait qu'en utilisant ce nom, ça va marcher. Hein? Alors maintenant, par rapport à Matthieu 7. Matthieu 7, rappelle-moi juste, c'est ceux qui vont chasser des démons, qui vont guérir, prophétiser, et à qui Jésus dira « Retirez-vous de moi », c'est ça? Alors on va juste prendre le texte, c'est Matthieu 7, 22. Donc Matthieu 7, 22. Alors il est question, effectivement, « Méfiez-vous des prétendus prophètes », verset 15, « Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups voraces, vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des ronces ou des figues sur des charbons, etc. C'est donc à leurs fruits, conclut-il au verset 20, que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père. Beaucoup me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom ?» N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal. Alors deux choses par rapport à ce texte. La première des choses, et parfois on oublie ça, c'est que Jésus ne remet pas en question les miracles qui ont eu lieu, les expulsions de démons qui ont eu lieu et les prophéties qui ont été données, puisque c'est en son nom qu'ils l'ont fait. Et à partir du moment où on le fait en son nom, c'est-à-dire on appelle le Seigneur, c'est-à-dire Jésus, le Maître, c'est lui qui répond. Si on appelle lui, c'est pas l'autre qui va répondre, c'est pas un démon qui va répondre. Surtout si dans notre esprit c'est bien clair, c'est lui qui répond. Donc c'est lui qui a inspiré, c'est lui qui a donné que les démons soient chassés et que les malades soient guéris. Ce que Jésus va leur reprocher, c'est « Je ne vous ai jamais connu, éloignez-vous de moi ». Non pas parce qu'il leur dira, non pas parce que vous avez prophétisé ou chassé des démons ou alors guéri des malades sous un autre esprit. Pourquoi? Vous commettez l'iniquité, vous commettez le mal. Le problème, c'est que ce sont des serviteurs de Dieu ou des prophètes ou que sais-je qui ont agi au nom du Seigneur, mais qui à côté de ça vivaient dans la débauche ou commettaient le mal ou faisaient n'importe quoi. Donc c'était des gens qui apparemment peut-être avaient connu une nouvelle naissance, j'en sais rien, ou peut-être même étaient dans l'évangile pendant un certain temps, ou alors qui pensaient être dedans, mais qui en réalité n'étaient pas dedans, parce qu'ils avaient une vie qui n'était pas en conformité avec ce que le Christ demande. Tout ça pour dire qu'il ne suffit pas d'utiliser son nom, ni même d'avoir des résultats en son nom, ni même de conduire des hommes et des femmes au Christ. Ça, ce n'est que l'aspect extérieur. Ce qui compte, c'est la vie de disciple, le fait de suivre le Christ, c'est ça. Autrement dit, ça veut dire qu'il ne faut pas se focaliser uniquement sur ce qu'on peut voir, sur les rapports qu'on peut entendre à droite à gauche. Ce qui compte d'abord, c'est comment est-ce que ces gens vivent, est-ce que ce sont des gens qui sont sérieux, est-ce que ce sont des personnes en qui on peut avoir confiance, est-ce qu'elles vivent ce qu'elles disent. Voyez ? Ça fait toute la différence. Et Jésus ne remettra jamais en question, hein. Et je vous ai raconté, hein, moi je connais des gens qui ont fait plein de trucs, hein, au nom du Seigneur, et c'est le Seigneur qui agit, puisque c'est son nom. Mais ça ne justifie pas leur manière de vivre. Et devant Dieu, on ne pourra jamais se justifier, on ne pourra jamais lui dire, ben voilà, moi j'ai conduit 20 000 personnes ou 25 000 personnes au Christ pendant ma vie. Le Seigneur, je ne veux pas dire qu'il s'en fout, hein, mais il dit, mais toi, comment t'as vécu, toi ? Comment t'as vécu ? T'as vu comme t'as vécu, là ? Tu te fous de moi ? Enfin, il ne va pas dire ça comme ça, mais c'est ce que ça veut dire. Quoi. Autrement dit, on ne fait pas n'importe quoi avec le Seigneur. Merci beaucoup pour ta réflexion, Rémi. Hein? Autre question, réaction ? Donc souvent dans le domaine spirituel, hein, y compris chez les médiums et autres, ils connaissent les principes fondamentaux. Donc voilà. Ce qui veut dire que certains peuvent parfois, vous avez, j'en parlerai lundi je crois, vous avez un guérisseur là au Brésil qui se fait appeler Jean de Dieu, un guérisseur spirit, le gars dans ses guérisons qu'il fait, il fait les guérisons physiques qu'il appelle et puis il fait des guérisons spirituelles et dans les guérisons spirituelles, il utilise souvent le nom de Jésus quoi, hein, souvent. Parce qu'il sait que le nom de Jésus, il y a quelque chose. Et si ça se trouve, il y a peut-être des gens qui sont guéris réellement au nom de Jésus. Mais à côté de ça, il y a plein d'autres esprits aussi qui vont se manifester. Lui-même fait n'importe quoi. Donc voilà un gars à qui Jésus dira, je ne t'ai pas connu toi. Hein? Voilà, eh bien nous allons prier. On va se lever encore, si vous voulez bien. Seigneur Jésus-Christ, nous voulons encore te remercier pour ta personne ce soir et nous voulons surtout te remercier parce que tu es le Fils de Dieu, tu es celui qui est venu, qui s'est abaissé, tu es celui qui a vécu et qui a été au milieu de nous et qui est présent aujourd'hui au travers aussi du Saint-Esprit parmi nous. Nous voulons, Seigneur, te dire que notre allégeance, c'est à toi que nous l'avons donnée. C'est toi qui es notre maître, c'est toi que nous reconnaissons comme notre Dieu. Nous sommes certes parfois des serviteurs qui ne sont pas toujours fidèles, des serviteurs aussi et des servantes qui sommes imparfaits, mais tu sais dans notre cœur que nous t'aimons. Et tu sais que nous te suivons et que nous voulons continuer de te suivre. Nous voulons te remercier parce que tu es un bon maître. Tu es un bon maître qui prend soin de nous, tu n'es pas un maître comme l'ennemi ou comme les démons qui maltraitent, qui blessent les gens, qui les brisent, qui les cassent. Toi Seigneur, notre Dieu, tu es bon et tu prends si bien soin de nous. Et nous voulons te remercier aussi parce que tu nous as confié ton autorité. Et cette autorité que tu nous as donnée, nous voulons te demander que tu nous aides les uns les autres à l'utiliser avec sagesse, avec discernement, que tu renforces aussi notre confiance, vraiment notre confiance en toi, en ta personne, en qui tu es, que nous ayons vraiment une confiance toujours plus grande et toujours plus forte en toi parce que nous savons que tu es là, que tu es présent, que tu agis, que tu nous utilises et que tu fais de grandes et de belles choses. Nous voulons te prier ce soir aussi pour que, et j'aimerais te prier particulièrement pour cette église et te prier pour mes frères et sœurs. J'aimerais te demander aussi que tu puisses équiper les uns les autres aussi au travers des dons de ton esprit. Hein, peut-être qu'il y en a certains qui ont déjà des dons, Seigneur, mais que tu as... des dons spirituels que tu leur as donnés ou autres, mais peut-être qu'ils n'utilisent pas ou qu'ils ne savent pas forcément comment ça fonctionne. J'aimerais te prier vraiment que tu les aides à pouvoir à leur donner toujours ces dons davantage, à pouvoir aussi les utiliser pour l'édification, pour le bien de l'Église, pour que ton Église soit édifiée, pour aussi pour que ta pensée soit communiquée à l'ensemble de tes enfants, et puis aussi que ceux qui sont captifs, qui sont liés, puissent être libérés des entraves de l'ennemi. Seigneur, merci. Je te prie aussi que tu crées dans nos cœurs, aux uns et aux autres, cette soif et ce désir et ce zèle, pas simplement, Seigneur, pour les choses de ce monde, mais que tu crées en nous ce zèle pour toi et ce zèle aussi pour aspirer et recevoir encore davantage les cadeaux que tu veux nous accorder, non pas pour nous glorifier de quoi que ce soit, mais pour être efficace dans l'œuvre et pour être source de bénédiction pour ceux qui sont près de chez nous. Merci Seigneur. Amen.